Bonjour Frédéric Nasrinfar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, membre du collectif Iran Justice, créé après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022 pour documenter, à partir d'ici, en France, les crimes commis par la République islamique depuis un an et demi. Ce travail, c'est aussi celui que mène à peu près depuis le même temps la commission d'établissement des faits sur l'Iran créée à l'ONU et qui présentait hier son rapport. 551 manifestants tués en un an et demi, dit cette commission. Téhéran accusé de crimes contre l'humanité, de discrimination institutionnalisée envers les femmes et les filles du pays. C'est la première fois, Frédéric Nasrinfar, que de tels faits sont suffisamment documentés par l'ONU pour être directement imputés au régime iranien.
Alors oui, tout à fait. C'est la première fois qu'effectivement un rapport de cette ampleur a été rendu dans le cadre de cette institution qu'est l'ONU. Donc je rappelle simplement que cette commission d'établissement des faits a été fondée suite aux événements qui ont eu lieu postérieurement à la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022. Et donc,
Les experts n'ont pas été autorisés à enquêter en Iran, il faut le dire quand même, mais des témoignages malgré tout leur parviennent, ils sortent de ce pays.
Tout à fait. Donc pendant 15 mois, cette commission, ces experts, comme vous dites, ont documenté, interviewé, entendu des personnes qui avaient été victimes d'exactions et de violations des droits humains, dans le cadre notamment des manifestations qui ont eu lieu justement pendant ces 15 derniers mois, autour du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et donc hier, cette commission rendait effectivement son rapport de manière extrêmement détaillée, en s'articulant sur plusieurs axes, notamment la mort de Mahsa Amini et également les exactions commises autour des manifestations depuis le 16 septembre 2022.
Est-ce qu'on peut parler avec ce rapport d'un niveau de répression jamais atteint depuis les débuts de la République islamique d'Iran, Frédéric Nasrinfar?
Alors oui, effectivement, vous citiez les nombres, c'est des chiffres qui sont assez ahurissants quand sur une période relativement courte, 15 mois encore, on est effectivement à plus de 550 morts de manifestants tués dans le cadre de cette répression. On a des dizaines de milliers, on parle même de 60 000 personnes arrêtées arbitrairement et qui ont été détenues dans les centres de détention iraniennes. Et puis vous avez également des exactions qui sont commises particulièrement à l'endroit des femmes, des enfants. On a, je crois, une moyenne d'âge autour de 15 ans qui a été établie sur l'âge des manifestants et des personnes qui ont été arrêtées. Vous avez des enfants de moins de 10 ans et qui sont également victimes justement de ces exactions.
Et tout cela, évidemment, il faut le rappeler quand même, pour étouffer la volonté de changement qui s'était exprimée au sein de la jeunesse après la mort de Mahsa Amini. La résistance face à un tel régime, elle est forcément silencieuse, souterraine, elle se joue de la censure. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle y parvient. Il y a des témoignages qui arrivent jusqu'à vous. Hier est sorti de la prison d'Evin un nouvel appel de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, à une pression systématique et globale contre l'Iran. On rappelle qu'elle a été condamnée à plusieurs reprises, qu'elle est détenue, elle continue de parler, elle dénonce d'ailleurs dans un ouvrage Torture Blanche les peines d'isolement total auxquelles sont soumises les femmes iraniennes, et c'est sur la base d'une dizaine de témoignages. C'est un courage incroyable qu'il faut à son niveau à elle et aussi au niveau de ceux qui témoignent pour vous.
Oui, alors tout à fait, effectivement, elle est représentative de cette mobilisation de la société civile. Et hier, dans l'hémicycle, lors de la présentation du rapport par la Finding Fact Mission, nous avons assisté à des témoignages de victimes, de personnes qui avaient été estropiées, qui avaient été éborgnées et qui ont pu justement venir contredire le narratif proposé par la République islamique d'Iran, à savoir que, en réalité, leur intervention dans la rue n'était liée qu'à un maintien de l'ordre, comme on peut le voir dans des pays lors de manifestations.
Oui, et les experts dénoncent précisément les efforts de Téhéran pour réduire au silence les victimes et les familles en quête de justice. C'est une partie aussi de la répression, ça.
Oui, tout à fait. Et le rapport en fait état de la même manière, en expliquant qu'effectivement ils ont eu énormément de mal à collecter les preuves du fait justement de l'interdiction et de l'absence d'autorisation qui leur avait été refusée pour venir enquêter directement sur le sol iranien, alors même que au moment justement de l'établissement de cette commission, enfin de cette mission, il avait été particulièrement insisté sur la nécessité de convoquer toutes les parties et invité la République islamique à collaborer étroitement avec justement les représentants de cette mission. J'ajoute que pas moins de 20 lettres ont été adressées par les membres et la présidente de la mission pour tenter d'obtenir des informations de la part de la République islamique, et rien n'a été, elles sont restées évidemment lettres mortes.
Et on a entendu hier l'ambassadrice américaine dénoncer les violences sexuelles exercées contre les femmes en détention pour leur arracher des aveux. Ça a donné lieu effectivement à une passe d'armes, ça donne une idée de effectivement du rapport de force autour de l'émergence de cette vérité. Frédéric Nasrin Farr, établir les faits, c'est bien. Après, que peut-il se passer du point de vue judiciaire, du point de vue de la justice ici? Qui peut pallier les manques d'une justice iranienne qui est aux ordres du pouvoir?
Alors c'est effectivement un petit peu compliqué, c'est ce que l'on essaye de faire au sein d'Iran Justice. Nos deux actes sont la vérité des faits, la vérité des exactions qui ont été commises, donc rétablir cette vérité pour contrer, comme je le disais, le narratif proposé par la République islamique, et à terme pouvoir rendre justice justement à ces victimes et aux familles de victimes. Alors les axes qui sont proposés, et d'ailleurs le rapport en fait état, sont évidemment se saisir de ce qu'on appelle la compétence universelle des États tiers qui peuvent, dans certaines conditions, et notamment ici, puisque on parle
dans le cas de crimes contre l'humanité,
exactement, de pouvoir obtenir des condamnations des dignitaires de la République islamique et des représentants de la République islamique et de la République islamique elle-même, et vérité également, donc avec le recensement justement de ces exactions pour rétablir tout simplement une vérité historique, une vérité judiciaire à terme.
Mais est-ce que vous croyez sincèrement à moyen terme à une action judiciaire en France, en Suisse, aux États-Unis? Est-ce que ces pays-là peuvent se saisir de ces crimes-là, quitte à s'opposer frontalement à ce régime?
Alors c'est assez compliqué parce qu'effectivement, il y a énormément de barrières politiques, de barrières diplomatiques. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est quand même que les législations ont tendance à s'assouplir, à évoluer, et vont plutôt dans le sens justement de la reconnaissance et d'une universalité des compétences juridictionnelles qui peuvent être octroyées justement aux juridictions nationales. Donc effectivement, nous, en tout cas, au sein d'Iran Justice, on y croit.
Frédéric Nasrin Farr, l'ONU vis-à-vis de l'Iran est capable de tout et son contraire. Il y a eu ce rapport à charge hier. En novembre dernier, on se souvient pourtant qu'elle avait confié à la République islamique la présidence du Forum social du Conseil des droits de l'homme, ce qui avait évidemment suscité pas mal de protestations. C'est parce que les pressions politiques précisément sont trop fortes, parce que parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, il y a aussi des soutiens de Téhéran.
Alors effectivement,
faire aussi avec cette contrainte politique-là.
Alors je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement ressorti justement lors des différentes interventions qui ont eu lieu hier dans l'hémicycle du Palais des Nations, où vous avez deux blocs qui s'affrontent, ceux qui effectivement soutiennent la République islamique et ceux qui au contraire poussent justement et mettent une pression supplémentaire au sein de l'ONU pour pouvoir enquêter, pour pouvoir réunir ces informations.
Et la nature de ce qui a été dévoilé hier peut faire bouger ces blocs à la marge au moins?
Alors nous on l'espère effectivement, puisque ce sont des éléments que l'on souhaite utiliser, faire valoir justement dans le cadre des différentes actions que l'on serait amené à pouvoir engager dans les semaines et mois à venir.
Merci Frédéric Nasrin Farr d'avoir été avec nous, avocat membre du collectif Iran Justice.